Le deuxième était le Transistor.
Nicolas Sarkozy est loin d'être battu et Marine Le Pen solidement implantée dans le paysage. Écrit Paul Quignot dans Libération ce lundi 9 janvier en réaction au sondage qui montre que 31% des Français souhaitent la victoire de Nicolas Sarkozy, 13% celle de Marine Le Pen, tandis que François Hollande perd 5 points pour retomber à 41%, ce qui le place cependant toujours en tête des sondages dans un pays pourtant réputé pour être majoritairement de droite. Vous l'aurez donc compris, après la gauche, c'est la droite qui sera l'objet de cette nouvelle table ronde de Transistor. Bonjour à tous et bienvenue à l'équipe du jour. Alors, à mes côtés, 4 hommes. Pour parler de la droite, est-ce un signe? On pourra en parler. Thomas, l'illustre animateur de Présidence.
Bonjour
Thomas. June, vétéran de Transistor qui revient parmi nous pour quelques tables rondes.
Bonjour.
Jérôme, chroniqueur et intervieweur de Présidence.
Bonjour à tous.
Et enfin Louis, non pas Jacob Aimé, du Bost, un nouveau venu dans les tables rondes qu'on accueille avec plaisir.
Bonjour.
Alors, tous les quatre, d'abord merci d'être parmi nous ce soir. Première question, la même qui a débuté celle sur la table, pour la table ronde sur la gauche. Être de droite, quelle serait pour vous la valeur fondamentale de la droite en un seul mot, s'il vous plaît? Bon, je vais commencer par la droite, par Louis.
Difficile de réduire la droite en un seul mot.
Mais tu vas y arriver, j'en suis sûr.
Je vais y arriver. Je dirais que c'est un mouvement qui, avant tout, en tout cas en croire Alain de Benoist dans Vue de droite en 77, prône une vision inégalitariste du monde.
Donc pour Louis, c'est l'inégalité. Pour toi, Thomas?
Ce serait liberté.
La liberté. Jérôme?
L'ordre.
L'ordre. Et June?
Oui, je dirais la tradition.
La tradition. Donc, contrairement à la table ronde sur la gauche, vous êtes tous en désaccord sur les termes pour les valeurs de la droite.
Ça se complète.
Donc, je vais vous appeler à développer un petit peu tout ça. Je rappelle que pour la gauche, vous étiez tombé d'accord sur la fraternité. Ce qui est drôle, c'est que là, vous sortez la liberté peut-être comme valeur première. Thomas?
Je pense que c'est assez complémentaire tout ce qu'on a dit. Et justement, on avait dit fraternité, on avait dit aussi égalité. Et on était parti d'une différence entre individu et le collectif. On avait dit que la gauche était plus du côté du collectif. Moi, si j'ai dit liberté, c'est parce que...
La distinction de Deleuze.
Voilà, distinction de Deleuze notamment. Si j'ai dit liberté, c'est parce que la droite, elle se pose plus du côté de l'individu, autonome par rapport à toutes les structures, notamment aux structures étatiques. Et la liberté, c'est notamment la liberté individuelle, la liberté économique. C'est pour ça que j'ai dit liberté par rapport à égalité qu'on avait dit la dernière fois.
Et du coup, ben, la nation, qui est quand même une valeur de droite, c'est par définition au-delà de l'individu, non? June?
Moi, je ne suis pas du tout d'accord.
Ça commence.
Moi, je pense que... à droite, il y a cette idée que... moi, j'ai des traditions, c'est parce que je pense que... À droite, on considère que les valeurs qui nous ont précédés et dont on hérite, nous modèlent, nous façonnent, et que c'est ce sentiment d'appartenance, par exemple, à l'idée de nation, bon, c'est pas partagé par toute la droite, mais donc cette idée d'appartenir dans l'espace et dans le temps à quelque chose qui nous dépasse, je pense que c'est important quand on est de droite.
Louis, pourquoi l'inégalité alors?
C'est pas tellement l'inégalité, mais c'est le refus de l'égalitarisme. Parce que la droite, elle est déjà...
Donc c'est la non-gauche finalement.
Oui, mais la droite, elle se revendique comme ça. C'est-à-dire que c'est une, aussi la... Peut-être parce que c'est le fruit de la propagande de gauche, mais la droite, elle est perçue aujourd'hui comme une maladie honteuse, une sorte de syphilis dont on ne pourrait pas se revendiquer.
On y viendra après.
Et elle se définit question. En creux. On va se définir dans le refus de la gauche plus que dans l'acception de la droite. Et la gauche, elle va prôner l'égalitarisme, c'est-à-dire une égalité parfaite entre les citoyens, entre les individus, avec un refus de la classification, alors qu'au contraire, la droite, elle va voir un régime d'ordre, un régime de classe, un régime éventuellement de caste, et elle va trouver le bonheur des individus dans une société fortement hiérarchisée. Donc c'est pas tellement la liberté. La liberté à la droite, elle est une conception relativement récente, c'est la droite libérale, mais la droite telle qu'elle va se dessiner au 19e et jusqu'à la fin du 20e siècle, c'est une droite... Donc, il y a les trois grandes droites de René Raymond, mais celle qui va triompher, ça va être la droite gaulliste. Et celle-là, au contraire, c'est une droite Pardon ?
Enfin, qu'est-ce que tu entends par droite gaulliste ? Enfin, que la
droite... Elle est dans l'héritage de la droite bonapartiste. C'est-à-dire, c'est une droite qui ne va pas prôner tellement que ça la liberté de l'individu, mais au contraire, l'intégration dans un corps plus grand qui est un corps national, mais qui est un corps hiérarchisé.
Mais toi, tu considères que l'UMP est gaulliste ?
Ah non, pas du tout. Au contraire, l'UMP va s'inscrire dans une droite de tendance néolibérale, influencée par l'américanisation de la société, qui tourne le dos très clairement au gaullisme.
Alors, je continue à vous faire réagir, hein, mais je voulais citer cette phrase d'Alain Madelin qui dit, dans le droit fil de ce que vous dites, il y a une droite jacobine et bornée, parfois archaïque, et il y a une droite libérale. Est-ce que ce sont deux droites qui peuvent cohabiter, ou est-ce que la droite libérale a tué cette droite jacobine et bornée qu'il appelle une droite archaïque ? Thomas, June ?
Ou peut-être Louis
Jérôme aussi. Qui n'a pas encore parlé.
Ben, je pense que les deux peuvent cohabiter, oui, et que quand on a dit ces deux droites-là, on ne les a pas toutes dites, je pense. Quand on reprend les trois droites de René Raymond, libéral, donc orléaniste, légitimiste et bonapartiste, en gros, et puis leurs héritiers. Si j'ai choisi l'ordre, quand même, que je justifie mon mot...
Alors, cette phrase sera sortie du contexte.
Si j'ai choisi l'ordre.
Si j'ai choisi le mot « ordre » pour définir tous les courants de la droite, c'est parce que je pense que... on pourrait dire, oui, collectif, individu, c'est quelque chose qui est repris pas mal pour distinguer la droite de la gauche. Mais je pense que ça ne suffit pas parce qu'il y a... une gauche qui part de l'individu, hein, le radicalisme qui est né quand même à l'extrême gauche. Bon, maintenant, il l'est beaucoup moins. Il y a également à droite une certaine idée de collectivité dans une certaine extrême droite. Aussi, il y a conservatisme progrès, ça, c'est pas non plus tout à fait satisfaisant parce que on peut considérer que. Quand la gauche est au pouvoir, la droite peut considérer que c'est elle qui est conservatrice, etc. Celle de nation, la gauche peut autant en dire avec la patrie. Bon, alors pourquoi l'ordre ? C'est parce que je pense que chacune de ces droites, chacune à sa manière, défend une certaine place de l'homme dans la société. Et que, mettons, pour ceux qui sont héritiers... des légitimistes, etc., c'était un ordre transcendantal, divin, qui était fixé et on ne pouvait pas passer d'une classe à l'autre facilement. Pour les libéraux, c'est l'ordre que veut la loi du marché. Et là aussi, il y a un ordre qui est prescrit, on va dire, et même s'il y a le modèle du self-made man, il y a quand même un ordre qui est donné par la loi du marché. Enfin, la droite bonapartiste, césariste, hein, même gaulliste, c'est le rapport d'un homme à un peuple. Et là encore, il y a une idée d'hiérarchie très prononcée.
Alors rapidement, sur ces trois droites, avant de changer de question, June puis Louis.
Alors, tu avais posé la question si la droite bonapartiste avait... Non, si la droite orléaniste avait tué la droite bonapartiste...
Remplacé, je dis, oui. Plus que tué.
Bah, alors moi, je pense que dans la caste politique... et aussi dans la caste médiatique, c'est l'orléanisme qui a gagné, qui d'ailleurs s'est allié à une gauche qui est devenue libérale. Et donc voilà, les idées qui vont du centre-gauche au centre-droit, c'est ces idées-là qui ont gagné, avec déjà tournant libéral en 83, et puis ensuite le oui à Maastricht. Et d'ailleurs, ceux qui étaient pour le oui, des gens comme Jacques Delors, ont vraiment stigmatisé les autres en disant que...
Attention, tu repars sur la gauche, là.
Oui,
restons à droite.
Oui, mais, on a assez, oui, mais ils ont influencé la droite aussi. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, ils ont vraiment stigmatisé ceux qui n'étaient pas libéraux comme eux. Mais je pense que dans l'électorat, d'une manière générale, il reste encore beaucoup de gens qui sont très, très attachés au gaullo-bonapartisme, hein, bon, pour mettre un mot général. Et Sarkozy a fait la danse du ventre à cet électorat populaire en 2007, et c'est grâce à ça qu'il a gagné. Donc, dans l'électorat, c'est quelque chose qui est encore très présent.
Louis.
Donc, moi, je voudrais revenir sur la citation de Madelin, et ensuite sur ce que tu as dit sur la question de l'ordre.
Alors, je rappelle la citation de Madelin, parce que les auditeurs n'ont pas forcément ta bonne mémoire. Donc, M. Madelin disait, il y a une droite jacobine et bornée, parfois archaïque, et il y a une droite libérale.
Donc moi, je crois que c'est les deux droites, puisque c'est ta question, ne sont pas compatibles. Donc la droite de l'ordre et la droite libérale, parce que la droite libérale, celle de Sarkozy aujourd'hui, elle est pour la déconstruction de la figure de l'État, l'individualisation maximale de la société, et elle se rapproche bien davantage de l'anarchisme qu'on va trouver à gauche. Elle n'est pas du tout dans une structure forte qu'on va trouver aussi, mais dans un socialisme qui est un socialisme d'État. Mais alors pour revenir sur cette question de l'ordre, bon, qui est un peu concomitante, je crois qu'il faut se méfier parce que certes la droite va prôner l'ordre et en même temps le clivage gauche-droite qui est posé donc dès 1789, il refuse aussi un ordre transcendantal que tu avais trouvé dans la droite légitimiste parce que, en tout cas c'est l'explication qu'en donne Michel Vinocq, avant 1789 la société elle est organisée dans une vision organiciste, hein, donc le Polycraticus de Jean de Salisbury avec une tête qui est représentée par le roi et ensuite le corps social ressemble à un corps humain, bon, avec ses mains, son ventre qui est représenté par la bourgeoisie, et au contraire dans la journée du 28 août 1789 au sujet du veto royal qui avait décidé la distinction entre droite et gauche, cette fois-ci c'est l'individu certes se plaçant à droite qui va à la fois se mettre dans la lignée d'une tradition catholique et royaliste, mais en même temps c'est de son propre chef et individuellement qui décide de faire ce choix sans représentation sociale préétablie et désormais dans un rapport horizontal et non plus vertical de stricte égalité avec l'homme de gauche. Donc c'est un ordre mais qui est un ordre relatif et qui est bien un ordre individuel, un ordre choisi en toute autonomie.
Non mais on est d'accord en fait, mais c'est juste je pense que dans la droite, c'est difficile de trouver une valeur qui convienne à toute la droite, sur tout le spectre politique de la droite. En revanche, l'ordre, on est bien d'accord que les trois définitions de l'ordre que j'ai données, elles sont toutes les trois différentes. Que ce n'est pas la même chose qu'on appelle l'ordre dans les trois cas. Ensuite, quand on parle de l'ordre... disons gaulliste. L'ordre gaulliste, c'est un homme qui émane d'un peuple. Évidemment que ce n'est pas du tout le même ordre que celle de la personne du roi, qui, elle, tire sa légitimité de sa naissance, et de son rang divin, enfin d'origine divine, de son sang. Oui, Thomas ?
Même si De Gaulle, dans les discours qui ont fondé le gaullisme, a bien insisté sur le fait que ce qui avait fait la grandeur de la France et ce avec quoi il voulait renouer, c'était, il cite, c'est pas anodin ce qu'il cite, il cite les croisades, Louis XIV et la Révolution française. Alors là, on a l'impression d'un peu d'un melting pot anachronique, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'au-delà de juste la personne, c'est aussi la volonté d'un destin commun. Et c'est d'abord le destin en commun qui guide la France et qui doit s'incarner dans un homme. Donc c'est d'abord ça avant l'homme. Et donc l'idée de c'est pas vraiment comme un roi, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que De Gaulle, pour définir le gaullisme, il a aussi pu prendre des figures royales, c'était pas antinomique avec son projet.
Non, d'ailleurs.
Ok. On progresse avec cette idée donc d'une distinction entre deux droites, la droite jacobine et la droite libérale, pour toujours citer ce monsieur Madelin qui n'aura jamais été aussi cité, je pense.
C'est méchant,
c'est méchant ça.
Oui, toi avec Corinne Lepage. Est-ce que l'électorat est différent? Est-ce que la droite jacobine et la droite libérale s'intéressent au même électorat? Ou est-ce que l'électorat a glissé avec les valeurs de la droite en quelque sorte? Qui vote pour la droite aujourd'hui en France?
Jaune,
une idée?
Oui, moi je pense que c'est en majorité l'électorat populaire. Enfin, quand on dit droite, ça.
Genre, nuancé,
ça. Droite. Et ce qu'on appelle extrême droite.
Il faut aussi le Front National. Je suis sûr que ce soit aujourd'hui un parti de droite. Tu vois,
non, c'est vrai. Mais ça reprend beaucoup de ce que nous on appelait à l'instant la droite jacobine. Donc, mais je suis tout à fait d'accord que Marine Le Pen elle se positionne même à gauche sur l'aspect social.
On peut lui reconnaître ça. Elle est ce score politique.
Elle joue d'un certain. Enfin, elle surfe sur une. Sur son image de femme libre et indépendante.
Après de l'extrême droite, en plus en particulier, restons sur les droites jacobines et libérales.
Donc moi je dirais...
L'ordre, s'il vous plaît, pour cette émission sur la droite, ça s'impose.
L'électorat populaire, enfin majoritairement, qui vote à droite.
Est-ce que ça, c'est nouveau? Est-ce que ça a changé d'un point de vue historique, hein, bêtement, des petits rappels peut-être s'imposent sur ces questions-là?
Ce qui est intéressant, c'est que c'est en train de changer en tout cas, parce que si avant on pouvait vraiment dire que c'était l'électorat populaire, et c'est pour ça que rappeler l'électorat
populaire vote quand même à gauche aussi, non?
Depuis Mitterrand, plus non. Depuis Mitterrand, plus du tout.
Il a voté pour le Parti communiste en partie, mais enfin depuis la chute du Parti communiste, c'est vrai qu'il a voté plutôt à droite ou ce qu'on appelle.
Depuis que Mitterrand a tué le Parti communiste, il ne vote plus à gauche.
Alors, qui vote donc, pour la gauche à part les fonctionnaires bah
Je ne les trouve plus.
Non, mais les fameuses classes moyennes, et c'est ça qui est en train de changer.
Le CSP+,
ouais.
À coloration bobo.
C'est ça. C'est ce qui est en train de changer, c'est que c'est surtout les classes moyennes qui votent à gauche et que dans l'UMP se développe un nouveau courant de pensée, une nouvelle
Laurent
chapelle.
Wauquiez, là.
Celle de Laurent Wauquiez qui dit la droite sociale et qui a publié un livre qui s'appelle La lutte des classes moyennes pour essayer justement d'infléchir la ligne directrice de l'UMP qui regardait vers les classes populaires, même si on peut redéfinir le terme, vers justement ces classes moyennes, les CPS+, dont tu
CSP,
parlais, c'est CSP+, c'est ça ?
Oui.
D'accord.
Catégorie socio-professionnelle.
D'accord. Et qui dit justement qu'il faut repositionner sur le fond, et en particulier sur les questions sociales, l'UMP, c'est ça qui a fondé son mouvement, en tout cas, c'est ce qu'il dit.
De droite sociale.
Oui, mais c'est tout récent, personne ne sait ce que représente M. Wauquiez électoralement, ou en tout cas son mouvement. C'est un tour de passe-passe sorti par le président à quelques mois des élections. Autrement, M. Sarkozy en tout cas, mais qui est encore une fois une frange de la droite toute particulière, parce que la droite, elle a quand même surtout, en tout cas au 19e, recruté dans les milieux favorisés, le milieu de la bourgeoisie. Enfin, c'était la droite orléaniste de Guizot, par exemple. Aujourd'hui, M. Sarkozy va trouver dans les cadres d'entreprise, les commerçants, les restaurateurs, son électorat principal.
Donc, si je résume, il y a quand même beaucoup de gens de droite en France, on a l'impression. On a toujours la tendance à dire que la France est un pays de droite,
mais
majoritairement, qui vote par tendance, par nature presque, majoritairement à droite. Et cependant, comme l'avait écrit Éric Brunet dans la une de son livre, on a l'impression qu'être de droite, c'est un tabou aujourd'hui. En France, presque une insulte. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est un tabou d'être de droite aujourd'hui ?
C'est ça le paradoxe, c'est que la droite, elle est au pouvoir en France. Elle a été majoritairement, en tout cas, au 19e et au 20e siècle, et qu'elle ne s'est jamais revendiquée. Les hommes de droite qui étaient au pouvoir, ils se revendiquaient éventuellement d'un homme. Ils
se revendiquaient d'une droite décomplexée.
Oui, mais c'est tout nouveau, et il ne le fait plus d'ailleurs.
Très intéressant ce que tu dis, Louis, parce que justement, Jacques Chirac, qui a quand même longtemps marqué le paysage de la droite française et qui a concentré autour de sa personne le RPR, puis qui a donc accepté la création de l'UMP, n'a jamais, jamais dit qu'il était de droite. Jamais. Dans aucune de ses déclarations.
Ouais, mais au fond, c'était un vieux rat de soc.
Est-ce que c'est tabou d'être de droite aujourd'hui en France, June, Jérôme ?
Un peu, ouais, je trouve.
Ou je pense quand même, dans certains, en tout cas dans certains milieux, ça peut être vu, oui,
oui.
Je pense.
Mais c'est tabou de façon...
On a l'impression quand même que
ça dépend où.
C'est beaucoup plus politiquement correct d'être de gauche que d'être de droite aujourd'hui en France, non ?
Enfin, surtout quand on est jeune.
Non, mais quand on est âgé aussi, mais c'est la gauche, ça, qui a nourri à l'égard de l'électorat droite un complexe, qui est un complexe historique. Bon, la...
June se lève dans la il a envie de parler.
par exemple, ce qui est tout de même assez étonnant, la gauche ne cesse de faire porter à la droite le poids du vichysme, par exemple, rappelant en permanence la collaboration qui n'est pas qu'à droite d'ailleurs de certaines classes
la SFI électorale avait voté à 56%,
oui, avec le régime de Pétain, alors qu'en revanche la gauche ne se sent pas responsable du tout des mises en pratique du socialisme historique en Russie, en Chine, au Cambodge. Bon, et il y a là des traitements qui sont inégalitaires et qui sont étranges quand même.
Alors June,
Moi je pense que c'est beaucoup dû aussi au fait que les journalistes qui sont majoritairement de gauche, enfin, ont cherché à ringardiser la droite et que ça vient aussi de là, je pense, le fait que c'est tabou d'être de se dire de droite.
Parce que
Jérôme, un avis,
moi, ce que je pense, est-ce que les Français votent majoritairement à droite ? Ça, j'en sais rien. Je pense que la question, c'est qu'on définit...
Qu'on le veuille ou non, sur les dernières décennies...
Oui, il y a
Français...
eu 4 présidences de droite et un de gauche.
Et les chambres ont souvent été à droite.
Le Sénat notamment, qui est tout de même passé à gauche ces dernières semaines.
Oui.
Et
l'Assemblée
nationale a été plus souvent à droite qu'à gauche aussi pendant les dernières décennies. Donc, il y a quand même une certaine tendance à voter à droite.
Je pense que la Ve République pousse quand même pas mal avec les institutions et particulièrement la concentration sur un homme.
La faute à De Gaulle ?
Je dirais pas ça comme ça non plus.
Pour la faute.
Oui. Grâce à De Gaulle,
oui,
après,
c'est
tout,
vrai, après tout.
Tout dépend des convictions.
Mais c'est vrai qu'à gauche, il y a un refus de la personnalisation du pouvoir. Enfin
on a vu quand même le bal des égaux.
Oui.
Oui. Au Parti Socialiste. Bon.
Oui, mais je veux dire, c'est une ambiance, quoi.
C'est une ambiance qui est due au fait que les institutions les contraignent à entrer dans ce moule.
Oui.
Tu voulais dire quelque chose.
La faute à De Gaulle, et ce qui nous permet de revenir sur ce qu'on disait au début, c'est que c'est bien la droite bonapartiste, si on reprend les trois droites, qui finalement a gagné, parce que c'est exactement cette volonté qui a guidé De Gaulle quand il a créé les institutions de la Ve République.
Pourtant...
Donc on est dans un cadre de droite bonapartiste. Oui,
mais
dans...
institutionnellement,
depuis 30 ans, ça se défait.
Mais institutionnellement seulement, parce que...
C'est Nicolas Sarkozy, pas Dominique de Villepin, qui est au pouvoir aujourd'hui.
Bien sûr,
France.
Et c'est pour ça que Nicolas Sarkozy...
Pour pas citer Nicolas Dupont-Aignan, mais...
Oui, Nicolas Sarkozy remet en cause des héritages de Gaulle qui sont défendus par la gauche.
Et par les Mitterrandiens,
certains,
c'est
oui,
ça
beaucoup par les Mitterrandiens, évidemment. Beaucoup. Et Manuel Valls.
Ça veut dire quoi, Mitterrandien? Parce que Mitterrand, c'est, il était pétri de contradictions. Donc, ça veut dire quoi, Mitterrandien? Mais et qui à gauche?
Manuel Valls, par exemple, dans ses déclarations, défend beaucoup plus Nicolas Sarkozy. Que Nicolas Sarkozy, pardon, lapsus révélateur peut-être. Par exemple, un Mitterrandien, oui, Valls. Voilà, pour t'en citer.
Oui, oui. Sinon.
Delors, par exemple, même si on l'écoute plus.
Delors, gaulliste?
Non, Mitterrandien.
Ah, aussi. Ah, pardon. Oui.
Mitterrandien. Gaulliste, ensuite, non, mais Mitterrandien.
Mais il y a deux Mitterrands. Et...
Au moins.
Bah, Delors, c'est plutôt le Mitterrand de 83 qui.
Soyez plus clair, parce que tout le monde n'a pas.
Non, mais qui, après avoir pris.
Je sais pas à quoi faire référence.
Libéral, a commencé à construire l'Europe, une Europe dérégulée, libre-échangiste, et qui renonce à la souveraineté. Donc.
Oui, mais dans le cadre des institutions, ils défendent tout ça. Et on voit bien que quand Nicolas Sarkozy s'attaque à des éléments du programme de De Gaulle, et notamment du Conseil national de la résistance, qui avait été approuvé par tout l'entourage de De Gaulle, fortement à droite, on voit bien que là, la levée de bouclier, elle ne se fait pas à droite, elle se fait à gauche, et par des gens comme Manuel Valls, Cambadélis et les autres. Donc on a bien une évolution là aussi.
Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça la permet de considérer un mouvement de fond de l'opposition entre la droite et la gauche. C'est que la gauche, elle ne cesse de récupérer les thématiques de la droite. Et la droite, se les laisse voler. L'écologie, thème de droite récupéré par la gauche. La place de l'État, bon, à laquelle était réticente, enfin, bon, qui rencontrait une opposition de la droite légitimiste, aujourd'hui, elle va être défendue par la gauche. La figure de De Gaulle, qui était tout de même une figure de droite, elle est aujourd'hui revendiquée par la gauche. Le colonialisme, bon, le refus du colonialisme, qui a été longtemps une valeur de droite, aujourd'hui, deuxième moitié du XXe siècle, a été défendu par la gauche. Et la droite se laisse systématiquement manger la laine sur le dos, récupérer ses hommes providentiels, récupérer ses victoires par une gauche qui, sinon, n'est qu'avare d'intelligence.
Le fait que Nicolas Sarkozy soit obligé dans ses discours en 2007 de citer Jaurès
et Blum.
Alors qu'au contraire, pour les symboles, c'est plutôt, j'ai l'impression, la droite, qui reprend certains symboles de la gauche. Au départ, le drapeau, la Marseillaise, tout ça, c'était des choses. Enfin, au 19e siècle, c'était vraiment la gauche qui les mettait en valeur.
C'était les communistes. C'était les rouges.
Les socialistes à l'époque.
Oui,
mais,
oui.
Mais,
oui, qui aimait beaucoup la République.
Oui, mais c'était les symboles de la République.
Oui, voilà, mais justement, c'était pas les rouges, c'était les républicains. Et c'est les républicains, et alors là, il y a un homme qui est important au début du XXe siècle, je crois que c'est Méline. C'était ces républicains convaincus de la raison d'être de la Révolution française, qui se sont inquiétés, fin du XIXe, début XXe, de la progression du corps syndical, la progression des idéaux révolutionnaires, et qui alors sont passés à droite, qui ont voulu finir, ça c'est une vieille tradition française, finir enfin la Révolution française. Et ils ont été, ces gens-là, relégués à droite parce qu'ils ont été dépassés par le corps de gauche.
Plus personne n'a envie de réagir à cette question, c'est magnifique, on va pouvoir changer. Restons à droite avec un autre mouvement qui fait partie de la droite, au moins traditionnellement, celui qu'on appelle l'extrême droite aujourd'hui en France. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite?
Bah, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen surtout.
Oui, mais
après, il y a des.
Elle se défend d'être d'extrême droite.
Je reformule, oui, non, je reformule ma question.
Sur l'échiquier.
Si l'ordre, entre guillemets, est la valeur générale de la droite. En quoi une certaine droite peut-elle être extrême dans cette valeur-là, voilà. Pourquoi dire extrême droite? Qu'est-ce qui différencie l'extrême droite du reste de la droite?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une nette ligne de fracture qui se dessine, qui est sur l'Europe, la mondialisation, le libre-échange, etc.
J'ai l'impression qu'elle se...
C'est la même ligne que
c'est cette vieille ligne qui existe depuis longtemps. Mais j'aurais pas dit que De Gaulle était à l'extrême droite pour autant. Donc,
non, parce que De Gaulle, s'il refusait une position atlantiste, il a toujours défendu une position d'Europe-puissance qui n'a rien à voir avec ce que dit Marine Le Pen. Donc, il n'aurait pas pu être classé à l'extrême droite.
D'ailleurs, très loin d'être l'Europe qu'on a aujourd'hui. C'était pas l'Europe avec l'Angleterre, c'était pas l'Europe des marchés, enfin, c'était pas l'Europe demain de la Turquie. Ça n'a rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui.
Ça, c'est pas encore fait. Mais bien sûr que ça n'a rien à voir avec l'Europe d'aujourd'hui, mais ça reste une ouverture à d'autres nations et pas une refaire.
En même temps, si De Gaulle revenait aujourd'hui, tout.
Si De Gaulle revenait aujourd'hui.
On parle beaucoup de De Gaulle.
Quand on parle de la droite,
limite à De Gaulle.
Et avant, on parlait beaucoup de Mitterrand quand on a parlé de la gauche. Il n'y a pas de hasard.
Mais c'est les deux grandes figures.
Si De Gaulle revenait, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui diraient qu'il est d'extrême droite. Donc,
mais certains, et pas.
Tout le monde parlerait de repli nationaliste.
Il y a eu un glissement à gauche du discours politique qui est considérable. Bon, d'ailleurs, si le Front National réutilisait il y a quelques années les citations de Jaurès sur la nation, c'est bien qu'elles seraient aujourd'hui difficilement citables par des hommes politiques, surtout des hommes politiques de gauche.
Cela dit, on peut trouver certaines phrases de De Gaulle qui sont très fédéralistes au niveau européen. Et on n'en parle pas trop. Parce... Oui, si. Bon, évidemment, on parle surtout de sauter comme un pas de cabri, l'Europe.
On sortait un peu du général pour en revenir à l'extrême droite d'aujourd'hui, s'il vous plaît.
Mais le nationalisme de Marine Le Pen n'est pas, je crois, un nationalisme frileux qui ne veut considérer que la France, c'est pas une France chauvine qu'appelle Marine Le Pen. Elle est nationaliste. C'est-à-dire qu'elle croit que l'intérêt des individus, le bonheur des individus n'est possible que dans la réalisation dans une réalisation supérieure qui est la réalisation de la nation. Mais le nationalisme n'interdit pas l'Europe. D'ailleurs, Marine Le Pen n'est pas contre l'Europe. Elle est contre cette Europe-là. Et d'ailleurs, bien des partis politiques en France le sont aujourd'hui. C'est pas leur refus de l'Europe. Au contraire, c'est une Europe construite, une Europe culturelle, une Europe construite sur des valeurs qui seront les valeurs éventuellement du christianisme, mais celles de l'Occident ou de la démocratie, et respectueuse des différentes nationalités. On peut être profondément nationaliste, et même peut-être qu'on le doit, et être en même temps pro-européen.
Ce qui est très nouveau dans son discours, c'est qu'elle commence à parler de laïcité. Tu parlais du christianisme.
Oui. Donc... typiquement, une valeur quand même qui était brandie par la gauche depuis longtemps, ça, 1905, etc. Oui. Et alors qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste a complètement abandonné la laïcité. Pour taper sur les curés, ça, ils ont toujours été au premier rang. Mais lorsqu'il s'agit de défendre la laïcité contre un islam qui est aussi, pas seulement, mais aussi un islam radical, misogyne, défendant la théocratie, anti-républicain, anti-démocratique, là, subitement, il avait écouté d'ailleurs les discours de Martine Aubry récemment.
Revenons à l'UPS droite. A complètement abandonné.
Oui, s'il vous plaît. Non, mais sur peut-être les, si vous pouvez caractériser l'extrême droite, c'est bon. Mais peut-être que voilà, j'ai une citation peut-être de Maurice Bardet, dans Sparte et les Sudistes.
On t'écouche.
Qui permet.
On t'écoute.
Alors évidemment, Maurice Bardet, bien sûr, c'est une extrême toute particulière. C'est une extrême droite qui se revendique fasciste, mais ça permet aussi peut-être de penser la distinction entre fascisme et extrême droite. Bon. Il dit donc c'est dans Sparte et les Sudistes en 1969. Je crois que le monde moderne est une entreprise de dénaturation de l'homme et de la création. Je crois à l'inégalité parmi les hommes, à la malfaisance de certaines formes de liberté, à l'hypocrisie de la fraternité. Je crois à la force et à la générosité. Je crois à d'autres hiérarchies que celles de l'argent. Je crois le monde pourri par ses idéologies. Je crois que gouverner, c'est préserver notre indépendance pour nous laisser vivre à notre gré. Donc il me semble que ça, il y a deux lignes de force qui émergent. C'est que l'extrême droite, elle est dans un double refus. Celui de la modernité, qui n'est pas la modernité, qui n'est pas la technologie. Par exemple... Le nazisme a montré qu'on pouvait avoir un régime d'extrême droite et donc très réactionnaire et conservateur qui en même temps prônait une avancée industrielle importante. Mais c'est la modernité qui est celle des Lumières et elle est dans le double refus du matérialisme. Que ce soit le matérialisme historique, le refus du communisme, ou alors le matérialisme bourgeois qui est celui du libéralisme. Et bien sûr, si Marine Le Pen n'est pas fasciste et encore moins nazie, très loin de là, on va retrouver ces thèmes-là qui, je crois, sont présents dans son discours.
Donc finalement, De Gaulle est d'extrême droite parce qu'il prônait une troisième voie, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire ni le socialisme historique, ni le capitalisme. Donc finalement...
Alors François Bayrou aussi est d'extrême droite.
La troisième voie, elle est un vieux thème de l'extrême droite. C'est le ni droite ni gauche, c'est comme ça que Sternel qualifie le fascisme d'ailleurs.
Actuellement dans le Front National, très récemment dans le Front National, il y avait... trois tendances, comme toujours, il y a trois ailes. Et disons qu'il y avait.
Comme toujours, il y a trois ailes. C'est la première fois que j'entends ça.
Oui, c'est vrai.
Non, mais je pensais que t'allais dire.
Comme souvent en politique, il y a trois ailes.
Je pensais que t'allais dire qu'on fait trois parties parce qu'on est anormal, mais non, trois ailes.
Non, oui.
Trois ailes. J'ai pas les vu... animaux à trois ailes sont plutôt.
Oui, j'ai pas vu mes cours de bio, mais.
Ça déséquilibre un peu quand même.
Oui, bah, disons un corps et deux ailes. ça va mieux comme ça. Bah, par exemple, là, on avait vu pour la droite, pour l'extrême droite, là, si on parle de personnes, de personnalités, ce qu'incarnait Jean-Marie Le Pen, c'était le FN historique et il y avait ce dont on disait donc, voilà, que voulait faire avec la dédiabolisation et compagnie Marine Le Pen, tirait plutôt à le normaliser. Ensuite, il y avait la ligne orthodoxe de Bruno Gollnisch, et puis il y a celle qui a fait sécession carrément encore plus à droite de Karl Lang, le parti de la France. Donc là, je pense qu'ils sont héritiers quand même de traditions assez différentes. Enfin, ou alors s'ils ont des héritages communs, s'ils ont des héritages communs, ils ont en tout cas des buts très différents et des électorats très différents.
Mais oui, alors, mais c'est vrai, il y a des gens mais qui ont rien à faire ensemble. Au FN, il y a des anciens gaullistes, il y a des anciens.
Comme partout, comme à l'UMP, comme au Parti Socialiste, comme dans anciens, tous les partis politiques.
Il y a des anciens péténistes. Enfin, je veux dire, Jean-Marie Le Pen, il aimait bien, j'ai l'impression, donner refuge à un peu tout le monde et être un petit peu le chef de tout ce petit monde. Et puis il était content comme ça.
Mais pour des raisons qui sont encore une fois historiques, parce que la gauche, elle a toujours eu. La politique du parti, elle divisait en classe, elle divisait la nation en parti, quand la droite, au contraire, elle avait toujours une réticence à l'idée d'organiser en parti parce que c'était opposé un tout national qui devait être un tout cohérent, qui d'ailleurs était pensé de façon un peu esthétique par des penseurs de droite ou des écrivains comme Maurice Barrès, qui considéraient que l'essence, la quintessence nationale devait être exprimée par la poésie et était certainement pas à diviser sur les bancs de l'Assemblée. Et donc l'extrême droite, elle est la fille de cette famille de pensée et elle a refusé la création de parti. Il n'y a jamais de parti à droite ou à l'extrême droite. Il y a des mouvements, des unités. Et le Front National, c'est tout à fait nouveau parce qu'il a réussi à fédérer des groupuscules, des tendances qui avant étaient extrêmement isolées.
Tout à fait.
Je vais rebondir sur ce que disait Jérôme en présentant ces trois tendances, ces trois ailes de l'extrême droite. est-ce que, avec la tendance fondamentale d'une extraction de l'échiquier politique général, ni de droite ni de gauche, mais on a l'impression que précisément Marine Le Pen fait des efforts pour rattacher l'extrême droite à l'échiquier politique français et le rendre un parti éligible et qui pourra entrer à la Chambre des députés, voire à l'Élysée. Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle aussi la dédiabolisation du Front National ?
Ah oui.
Bah moi je pense que ça a des limites. Je pense que ça a des limites parce que c'est, j'ai l'impression que c'est jamais très dur de trouver un zigoto qui prend une photo en faisant le signe nazi ou et que ça forcément ça a un impact.
Sauf que la différence maintenant c'est qu'elle les exclut ou qu'elle les punit alors qu'avant c'était pas
oui
le cas.
Mais en même temps vu par les adversaires politiques c'est bien la preuve qu'il y a des zigotos comme ça.
Ah mais bien sûr, il y en a.
Au FN,
je pense qu'on pourrait en trouver ailleurs.
Voilà, il y a des imbéciles dans tous les partis, on peut les trouver. En attendant, Marine Le Pen, elle fait le ménage au Front National, ce que Hollande et Martine Aubry n'ont pas fait au Parti Socialiste.
Et la dédiabolisation, elle est bien en acte. On n'a qu'à regarder le programme du Front National. Si on regarde, et c'est ce qu'a fait Najat Vallaud-Belkacem dans son livre Répondre au Front National, elle dit bien que tous les titres de chapitre du Front National sont presque copiés-collés du PS ou du Front de Gauche, et qu'à l'intérieur, évidemment, les contenus changent, mais que sur les effets d'annonce, elle essaye bien de donner une autre image.
Alors, est-ce que le Front National, du coup, ce que tu dis, n'est pas en train de piquer les ouvriers qui restaient à la gauche ?
Elle n'a pas eu besoin de les piquer, il n'y en avait plus.
Les sondages de Libère pas,
on
pique au Front National. Tout de même, aujourd'hui, tous les partis politiques réclament le Made in France, acheter français. C'est tout de même la politique de préférence nationale qui était prônée par Marine Le Pen et par Jean-Marie Le Pen depuis des années. Tout le monde oublie de le dire. Bon, on pique au Front National les ouvriers. Aujourd'hui, 43% des ouvriers sont prêts à voter Front National. Ils étaient partis, ces gens-là, chez Sarkozy en 2007 parce que Sarkozy était allé les draguer à cette occasion.
En tout cas, jamais à gauche. Hein, ça. On arrête, les ouvriers ne votent plus à gauche depuis Mitterrand.
Il y en a quelques-uns.
La majorité des ouvriers ne votent plus.
Le Front de Gauche est quand même un socle ouvrier syndiqué.
Enfin,
c'est rien du tout
le Front de Gauche. Est un
ça fera plaisir à Frédéric qui était avec nous à la dernière table
ronde. Il est sympa. À en croire le sondage, il a quand même 6%, 7%.
Oui, 6%, 7%, c'est à côté des 40 et quelques pourcents du Parti Socialiste. C'est rien du tout. C'est pour ça que je ne suis pas du tout.
En numéro 2 chez les ouvriers, c'est Sarkozy encore. Et c'est même pas Hollande ni.
Mais là où ça devient intéressant pour Marine Le Pen, c'est que, d'après le sondage du Figaro, les ouvriers ne forment que le quart de son électorat. Donc il en reste trois quarts à côté qui sont prêts à voter pour Marine Le Pen.
Ah, mais il y a de tout. Hein.
Qui sont beaucoup de ces fameux CSP, CSP+, cadres, professions intermédiaires, type artisans, petite bourgeoisie, l'ancien public de Poujade pour faire aller assez vite.
C'est ça, oui.
Et 15% de retraités.
C'est pas, elle a d'ailleurs fait un discours la semaine dernière en insistant là-dessus, en disant que elle comprenait le problème qui touchait, enfin les problèmes qui touchaient les classes moyennes durement frappées par la crise. Elle a insisté en reprenant presque les mêmes mots.
Oui, elle aussi veut séduire les classes moyennes.
Mais tout le monde veut séduire les classes moyennes. Peut-être à cause de ce think tank dont on parlait la semaine dernière, Terra Nova, qui disait que la grande stratégie, le grand enjeu de la présidentielle se ferait avec le vote des classes moyennes.
Alors, une dernière question sur le Front National, et puis on passera pour conclure à François Bayrou. Une question... oui, c'est totalement arbitraire comme choix, mais je l'assume vu le manque de temps. Dernière question.
Ce qui est arbitraire, c'est de mettre François Bayrou à droite.
Oui, ah, mais c'est la question que je vais vous poser. C'est la question que je vais vous poser. Pour Marine Le Pen, c'est pour rebondir sur l'actualité des derniers moments. On a eu une espèce de chasse qui s'est déroulée autour de Don Rémy. Dernièrement, je voulais avoir votre avis là-dessus. Jeanne d'Arc est-elle l'héroïne du Front National?
C'est un symbole national. Ensuite,
ça compte parce que Nicolas Sarkozy essaye de la repiquer, encore un truc qu'on essaye de renationaliser. Voilà, en deux, trois mots.
Heureusement.
Cette petite séquence où on a vu s'opposer la droite et l'extrême droite autour d'une figure qui est celle de Jeanne d'Arc et donc qui est celle de l'histoire de la nation. Qu'en pensez-vous? Qu'en avez-vous retenu?
Jeanne d'Arc a toujours été une figure revendiquée à droite comme à gauche. Mais Peggy a écrit Mystère de Jeanne d'Arc, Braziac a écrit Don Rémy. Donc...
Mais beaucoup plus à l'extrême droite qu'à la droite.
Jean-Marie Le Pen
appelait à voter Jeanne d'Arc.
En cas de PSUMP, oui,
après
faut le dire,
lui, voilà.
Non, pour Sarkozy, je pense que c'est. Enfin, Sarkozy, lui, il ne comprend pas très bien. Et puis, la bande à Sarko non plus, Nadine Morano, je ne suis pas sûr qu'elle comprenne ce que représente Jeanne d'Arc. Mais moi, je pense que Sarkozy.
Côté,
c'est
on va pas défendre Morano non plus.
C'est Henri Guénaud qui lui a dit de parler de Jeanne d'Arc. Voilà.
Non, mais alors, ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'encore une fois, Nicolas Sarkozy essaye d'appliquer ses bonnes petites recettes de 2007, c'est-à-dire d'aller essayer, comme on le disait, de prendre les électeurs là où potentiellement ils sont pour lui, c'est-à-dire dans cette extrême droite qu'on définissait. Et c'est exactement pourquoi il a favorisé la création en juillet 2010 de la droite populaire qui, avec Mariani, Lucas, Boyer et tous les autres, essaye de reprendre... mais qui n'est pas dans ce mouvement. Il n'y a que 43
qui est
membres.
Quand même l'expression...
Oui. Évidemment, oui, il en est affilié, mais il n'en est pas membre. Petite nuance, oui, mais bon. Et qui reprend des thèmes qui, sont, pareil, calqués sur un certain discours d'une certaine aile, une des trois ailes, du Front National. Donc, c'est cette même idée, cette même stratégie politique.
Et qui sont d'ailleurs les propos de la droite populaire sont d'ailleurs extrêmement droitistes, beaucoup plus extrémistes que parfois les propos du Front National, notamment en matière d'homophobie. Bon, et il faut bien être à l'UMP et jouir donc d'une totale impunité pour qu'ils puissent s'exprimer sur des propos avec des considérations sur les homosexuels que pourrait pas du tout se permettre aujourd'hui l'électorat du Front, enfin les leaders du Front National qui sont toujours sur la sellette et qui sont obligés de retenir leur voix. C'est pour ça que quand on parlait de la dédiabolisation du Front National, il faut aussi reconnaître au Front National.
Mais en même temps, c'est le diable utile entre guillemets pour l'ensemble de la droite. Marine Le Pen, oui, c'est ça. Le Front National.
Marine Le Pen est plutôt un danger aujourd'hui pour la droite parce qu'elle lui pique des
Comme toujours, c'est Jean-Marie Le Pen.
On a toujours l'impression que l'UMP pourra tout dire. On dira toujours, c'est quand même pas Marine Le Pen.
C'est pas Jean-Marie Le Pen. Enfin, il y avait quand même un interdit majeur absolu et d'ailleurs tout à fait justifié, qui interdisait toute adhésion au Front National. C'était l'antisémitisme. C'était l'antisémitisme qui prenait Jean-Marie Le Pen, qu'il avait, qui était aussi un homme de sa génération. Et aujourd'hui, c'est vrai, Marine Le Pen a pris ses distances avec l'antisémitisme. Alors peut-être que c'est juste une mesure électoraliste, personne ici ne peut lire dans les cœurs, on peut toujours lui reconnaître ça. Et c'est vrai qu'elle peut désormais de moins en moins sembler un repoussoir pour le corps électoral et pour l'UMP.
Et pour revenir sur la droite populaire, il y a un papier du Monde de la semaine dernière, d'un des numéros du Monde de la semaine dernière, qui justement comparait les deux programmes de la droite populaire qui a publié son programme très récemment et du Front National et qui relevait que sur des thèmes immigration, sécurité, mais aussi institutions, Union Européenne et même économie, les mesures étaient très proches, voire des calques. Institutions, oui. Alors,
ils sont pour le non à Maastricht.
Ils disent que la droite populaire et le Front National tombent d'accord sur l'instauration d'un référendum d'initiative populaire sur le modèle suisse. Ils ne vont pas non plus dans toutes les mesures des institutions, mais ils ont repéré, donc ils ont résumé ça sous le volet institutions, mais voilà, des grandes lignes de convergence en tout cas. Voilà, c'est le Monde qui dit ça, assumer non plus les propos du Monde.
La pendule tourne, s'il vous plaît. On était parti de Jeanne d'Arc pour en arriver
à la droite populaire, c'est pas mal. Laisser un petit peu de temps à notre ami François Bayrou.
Oui, sinon ça va se frustrer une certaine personne autour de la table.
qui apparaît de plus en plus comme un candidat potentiellement au potentiel bon score en 2012. Les temps de parole accordés par le CSA en sont le signe. Hein. Il est le troisième candidat au niveau du temps de parole accordé au CSA. Vous savez que maintenant le CSA accorde
à partir du temps de parole
en fonction de la crédibilité du candidat. Et François Bayrou est troisième
et
après.
En fonction des sondages, ce qui est. Ce qui pose question.
Ça pose question.
Ah bon ?
Donc, troisième derrière François Hollande, Nicolas Sarkozy. Après, on a François Bayrou et Marine Le Pen. François Bayrou est-il à droite, contrairement à ce qu'il dit ? C'est souvent le reproche qu'on lui fait. On lui dit t'es de droite, mais tu dis que tu ne l'es pas.
Il faut apprendre à compter jusqu'à plus que deux.
D'ailleurs, ce que dit aussi, il est du Bayrou dans le texte. D'ailleurs, c'est du Bayrou dans le texte, on a l'impression.
Non, mais d'ailleurs, y compris pour ce qui est de la droite ou ce qui est de la gauche, il y a plusieurs droites, il y a plusieurs gauches, il y a plusieurs centres.
Entre plusieurs ailes.
Oui, oui, bah, dans le centre, par exemple. Dans le centre, il y a encore trois
Bayrou
ailes.
Bayrou est la troisième aile.
Dans le centre, il y a encore trois ailes, oui, je maintiens, parce qu'il y a l'aile libérale. Il y a l'aile démocrate chrétienne.
Donc Morin.
Et il y a Morin pour les libéraux. Démocrate chrétien, Bayrou est d'origine démocrate chrétienne. Et puis
et
la troisième aile, la radicale, qui est actuellement Borloo, Baylet, etc.
J'ai une question cruciale, mais là-dedans, tu mets où Corinne Lepage?
Alors, on va pas rajouter Corinne Lepage à ce bal des inconnus qui se battent.
Elle a voulu incarner une écologie de droite, puis de centre, puis du gauche, puis on sait plus.
François Bayrou, sérieusement. On a l'impression que lui, pour le coup, il veut redevenir cette position gaulliste au-dessus des partis, au-dessus encore de Gaulle éternellement.
Oui, oui.
Au-dessus des partis, et qu'il veut se donner cette espèce de carrure présidentielle qui transcendrait ce que tu disais, cette opposition entre un PS. Marqué par les guerres intestines et représenté par un François Hollande aujourd'hui qui ne fait pas l'unanimité, et de l'autre côté un Sarkozy qui est au plus faible de sa popularité, qui est haï par une grande partie de la population mais pas par tout le monde. Voilà, on a l'impression que François Bayrou veut essayer d'émerger un petit peu de ce tas de décombres. Qu'en pensez-vous? Et du coup, est-il ancré à droite ou est-il ancré nulle part finalement?
Enfin, moi, je pense déjà qu'il a un problème de charisme, François Bayrou, et qu'à la longue, ça va lui. Enfin, d'ailleurs, c'est comme ça, ça s'est dégonflé.
On ne peut pas donner à François Hollande non plus un charisme exceptionnel. Hein, bah, il a 41% des sondages.
Bah, je pense que d'ailleurs, ça descend et qu'il essaie de jouer en défense en disant le moins de choses possible parce que voilà, il essaie d'imiter un petit peu Mitterrand, mais voilà, il n'a pas le charisme. Bayrou, il n'a pas le charisme non plus. Bayrou,
il veut. Il a un très bon papier aujourd'hui. Oui, ça fait deux fois que tu l'as plus de Libération, mais ils ont fait deux trucs intéressants. Ce qui arrive souvent, finalement, c'est reprendre des images de campagne de Mitterrand et de François Hollande pour montrer que.
Ah oui,
ils essayent à la fois visuellement et dans le texte de reprendre.
Oh, mais là, les éditeurs, ils peuvent pas voir.
Non, mais déjà, il a un problème,
ils
François.
Ils pourront regarder sur Libération.fr.
Hollande, il a un problème. Déjà, il a pas la voix de Mitterrand. Et ça, je pense que ça joue beaucoup. Enfin.
Et puis les gens ont aussi peut-être trop cru le peuple de gauche, celui qui se revendique peuple
François
de gauche,
Bayrou.
À Mitterrand pour croire encore en un homme de gauche aujourd'hui. C'est aussi la fin des idéologies. C'est-à-dire il n'y a plus forcément le même enthousiasme. Mais pour venir à François Bayrou,
s'il
peut-être. Oui, mais on peut connaître déjà au PS quand même, et je rebondis sur Bayrou, de s'être prononcé ces cinq dernières années sur toutes les grandes questions d'actualité. Alors que Bayrou. On l'a tout de même pas entendu pendant 5 ans. C'est ça qui est assez surprenant. Et subitement, il flambe.
Et pourtant, il dit partout qu'il parlait tout le temps et qu'il avait toujours raison.
Oui, deux ans avant,
il dit qu'il avait en 2007. Enfin, c'est vrai, il avait prôné attention à la crise, attention au surendettement. Et bon, l'histoire à court terme lui a donné raison. Mais pour revenir à la question, c'est vrai qu'il essaye d'appliquer cette chose que faisait De Gaulle. Et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment dire, en tout cas, que lui ne se dit pas de droite. C'est-à-dire d'être au-delà des clivages et d'appeler à ce qu'il disait en 2007 à un gouvernement d'union nationale qui justement dépasserait pour ces clivages qu'il dit. Qu'il dit dépasser.
Est-ce que le programme de François Bayrou est de droite?
Bah, en fait, là, il essaie de se placer un peu sur le même créneau que Marine Le Pen, au moins.
Pas sur le programme, en tout cas. Hein.
Non, mais pour l'instant, il n'y a pas du programme. Il n'y a pas de programme pour l'instant de Bayrou, puisque PS, UMP, MoDem, du Front National, ne se sont pas encore prononcés, n'ont pas encore chiffré leur programme. Donc ça, on ne peut pas l'estimer, mais sa posture est de droite, parce que, comme Marine Le Pen, François Bayrou met en évidence le caractère relativement obsolète du clivage gauche-droite. Bon, aussi parce que la gauche, au contraire, se revendique de gauche, revendique une forme d'État potentiel, bon, et ce jusqu'à Mitterrand. Aujourd'hui, ce discours sur l'État, donc sur la nature même du politique, est dépassé. Le politique, en tout cas, la théorie défendue par Carl Schmitt, va se recentrer sur les questions éthiques, sur des questions qui ne sont plus seulement celles du choix du régime qui avait pu opposer longtemps une droite monarchiste et une gauche républicaine. Et la gauche et la droite s'en trouvent atomisées. On vous parlait de Maastricht tout à l'heure. Maastricht, c'est quand même très surprenant, comme le référendum de 2005 d'ailleurs. Des hommes de gauche l'ont défendu, des hommes de droite l'ont défendu, ça dépassait très largement les simples clivages.
Et justement, on l'a pas entendu pendant 5 ans, mais ça peut aussi être une volonté de sa part de ne pas avoir justement pris part à ces polémiques et tout d'un coup d'émerger au bon moment et d'être justement cet homme présidentiel, puisque c'est bien ça la 5e République voulue par De Gaulle, la rencontre entre un homme, un projet de société et la France.
Enfin, sauf que quand en 58 De Gaulle apparaît, c'était aussi l'homme du 18 juin 40. Bayrou, il a pas grand chose tout de même. Non. Il a fait un score aux élections présidentielles.
Il a organisé la résistance.
Rien. Il n'a pas un intellectuel, pas un écrivain, pas un parti. Il n'a pas su, et ça c'est terrible quand dans la 5e République, il n'a pas su être un chef. C'est-à-dire qu'en 2007, il a laissé les élus et les membres de son parti rejoindre Sarkozy. Il a déçu à tout point de vue.
Non, mais ne me crie pas dans le je ne vais pas non plus défendre François Bayrou, je dis juste que stratégiquement il essaye de se faire passer pour l'homme présidentiel. Évidemment qu'il n'a pas, on ne peut pas le comparer ni à De Gaulle ni à Mitterrand.
En même temps, il fait
tous les candidats se comparent, enfin tous les candidats essayent d'avoir une stature présidentielle. Ceux-là, ils ne se diffèrent pas trop des autres.
Mais pas tous par les mêmes moyens. François Hollande n'essaye pas de se faire passer pour l'homme présidentiel type De Gaulle.
Bah, il essaye comme... de se faire passer pour Mitterrand qui
là, c'est
quand même
vœux,
l'homme présidentiel version de gauche. Quoi.
Mais Bayrou, il essaie de se la jouer anti-système, mais il prône pas une rupture avec l'Europe libérale d'aujourd'hui. Et donc, je pense que Marine Le Pen va bien plus capter par sa cohérence et par la force de son discours que François Bayrou,
le dernier sondage en date,
François Bayrou, publié dans Libération encore une fois,
obtient 26% des souhaits de victoire des interrogés.
Mais souhaits de victoire, c'est pas forcément ceux qui voteront pour Bayrou.
Je m'explique. Contre 31% pour Nicolas Sarkozy. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas un report de l'électorat de droite sur François Bayrou face à Nicolas Sarkozy ?
Il y a des déçus de Sarkozy ici.
Mais je ne vois pas comment Bayrou peut se revendiquer de l'antisystème. Il est réellement aujourd'hui, et encore plus depuis quelques semaines, la créature du système. Oui. Il a été créé par les sondages qui sont contrôlés par l'UMP pour voler des voix au centre-gauche ou à Marine Le Pen, et il n'existe que par ça. Bon. S'il a un temps de parole alloué par le CSA, c'est parce qu'il obtient certains résultats dans des sondages qui sont commandés par le système et par ceux qu'il dirige, c'est-à-dire par les représentants de l'UMP.
Ce qui est très drôle, c'est que pour essayer de se faire passer pour le candidat anti-système, quand il y a eu l'enterrement de Vaclav Havel, pour montrer qu'il est bien le candidat anti-système, il a refusé de prendre l'avion de Nicolas Sarkozy. C'est pour montrer tout l'image qu'il y a derrière et qu'en fait, c'est juste... c'est ça le fait d'arme de Bayrou, c'est de ne pas prendre le même avion que Nicolas Sarkozy.
S'il y a aujourd'hui un candidat de l'anti-système, et ce n'est pas du tout un appel au vote, hein, bien sûr. S'il y a un candidat de l'anti-système, selon un clivage qui n'est plus forcément un clivage gauche-droite, mais qui est un clivage mondialisation-anti-mondialisation, c'est bien davantage Marine Le Pen. C'est elle qui va s'opposer à ceux qui sont regroupés dans un même camp, qui sont Bayrou, Sarkozy, Hollande, tout ça.
D'ailleurs,
bonnet blanc et blanc bonnet.
Sa stratégie, je l'avais dit.
François Bayrou, là, je l'avais dit avant tout le monde.
Marine Le Pen, elle fait son. Je l'avais dit, j'ai pas arrêté de le dire.
Et on va conclure.
Ça marche assez bien parce que l'Europe est. Et aussi pas mal sur la zone euro là en ce moment, ça fait assez mouche.
Il est vrai incontestablement qu'elle l'avait dit. Quand elle a annoncé à la fin de l'euro, personne n'y croyait. Tout le monde la prenait pour une farfelue.
L'euro
n'est pas mort et espérons qu'il ne meure pas, mais il y a quelques jours encore, c'est vrai que le monde titrait sur la fin potentielle de l'euro. Il faut bien connaître une relative cohérence visiblement de son programme même économique.
Mais alors après, elle dit beaucoup, des économistes me rejoignent, je trouve ça un peu débile. Parce que c'est elle qui reprend Maurice Allais, Jacques Sapir. Et là, je trouve que ça, elle pourrait être peut-être plus crédible en disant, voilà, je reprends les travaux de ces économistes.
Trois mots de Louis et on conclut. Vous pourrez terminer cette discussion autour d'une bière ou d'un café. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette table ronde. Donc on a terminé sur François Bayrou, un peu boucle fermée dans la mesure où il
voulait... C'était pas la matière la plus noble.
Où il voulait, où il voulait apparaître comme le nouveau De Gaulle qui s'est visiblement affirmé comme la figure marquante de la droite, tellement vous le citiez de fois, il serait intéressant de noter le nombre de fois où vous avez prononcé ce mot pendant cette table ronde.
C'est bien le drame de la droite aussi, peut-être c'est qu'elle n'arrive pas à sortir de l'ombre pesante de De Gaulle.
Voilà, c'est un signe. Et donc à la place, on nous propose juste peut-être François Bayrou pour faire un jeu de mots peut-être maladroit, peut-être un De Gaulle bègue, mais...
Napoléon.
Est-ce le... Ou Napoléon, si tu veux. Est-ce,
ça, c'était Sarkozy, non ?
Est-ce un moindre mal par rapport à ce qui nous est proposé en alternative ? Voilà, je vous laisserai réfléchir à ces belles questions. Merci à tous les quatre d'avoir participé. À très bientôt sur les
Merci
ondes de Transistor. Et je termine quand même pour les auditeurs qui seraient allés jusque-là en précisant qu'en 2011, au total, 25 000 émissions de Transistor ont été écoutées, ce qui est quand même un chiffre impressionnant. Et on vous remercie encore une fois pour ces beaux chiffres. Bonne journée ou soirée à vous. Au revoir.